Vous écoutez
RMC.
Il est 1h du matin en France. Si vous nous rejoignez dans l'after, la nuit de l'after continue jusqu'à 5h bien sûr. Il est 19h ici dans le studio new-yorkais de l'after foot. Julien Laurent, c'est là. Daniel Riolo est là, Kevin Diaz également. Et on a un match qui démarre à l'instant.
Bien sûr, le match de la journée.
Entre le Panama et la Croatie, Valentin Jamin suit ce match qui se déroule à Toronto. Valentin, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. 40 secondes de jeu, ça vient de partir et 0-0 entre la Croatie et le Panama. La Croatie qui a le ballon depuis le début de la partie. Match important hein, puisque le perdant éventuel de cette rencontre sera éliminé de la Coupe du Monde ce soir, puisque le Panama avait perdu à la dernière minute face au Ghana lors de la première journée et que la Croatie s'était inclinée 4-2 face à l'Angleterre. Deux changements dans le 11 croate, Kovacic entre au milieu de terrain et Pongracic en défense, et surtout c'est la 200e sélection du grand Luka Modric, le capitaine, qui est encore là à 40 ans. Et il y a un seul changement du côté du Panama, c'est l'avant-centre, un premier centre justement de la droite pour les Croates, la tête au premier poteau de Luka Modric qui va passer au-dessus de la cage de Mosquera. Donc l'avant-centre du
Panama obligatoirement Julio César Deli Valdés.
Il est là, d'ailleurs, il est consultant là pour la télé panaméenne. Je l'ai vu partout et je l'ai vu au match de Ghana Panama. Il était encore.
Ils ont pas eu beaucoup de vedettes. Hein.
Ah bah c'est vrai aussi.
Il y avait lui et Oliveira. Hein.
C'est sûr.
Et là, la star, c'est Murillo, bien entendu, l'ancien Marseillais, qui est sur le côté droit.
Oui, c'est lui la star, oui, forcément.
Ouais, oui. Sinon, ça joue un petit peu en Espagne, en Autriche. Il y en a qui jouent au Mexique, hein, quand même. Juárez pour l'attaquant qui s'appelle José Luis Rodríguez.
Donc, il est pas mal. Panama hein. Un bon petit pied gauche. Rodríguez, tu verras, Valentin. Un bon petit pied gauche, rapide et tout. C'est pas mal. Et puis, les deux milieux de terrain aussi, notamment Harvey et puis l'autre capitaine aussi. Ça a un peu de ballon.
Ouais. Arsenas qui joue au Mexique également. Le Panama qui n'a jamais pris de points en Coupe du Monde, c'est sa deuxième participation. Donc voilà, même un nul serait historique entre guillemets pour les Panaméens. Mais il faut gagner pour une des deux équipes parce que derrière le Ghana et l'Angleterre pour le moment sont à 4 points 0-0. 2 minutes de jeu, la première possession panaméenne sous le soleil de Toronto.
Oui, j'allais vous dire, destination de vacances totalement sous-côté. C'est exceptionnel le Panama.
Mais difficile d'accès.
Exceptionnel. Il y a des plages somptueuses.
Ah oui.
C'est pas très cher.
Mais c'est difficile.
Panama City, c'est très développé. Tu peux aller visiter le canal en plus. Tu peux te balader sur le canal de Panama.
Mais t'y vas, il faut passer par les US, faire une escale et y aller après. Il y a un vol direct.
Depuis Madrid, depuis l'Espagne.
Ah, depuis Madrid.
Oui. Tu sais, les Espagnols, ils desservent tous les pays latino-américains.
Oui,
c'est un peu leur backyard, comme dirait.
Et grosse plage. De très belles plages.
Ah, magnifique. Plage somptueuse.
Ouais, j'en doutais pas. Voilà. J'en doutais pas.
Panama.
Panama.
Pas mal de gens qui veulent se planquer, qui vont au Panama d'ailleurs.
Aussi, ouais. Ah oui. Oui. Même pour des comptes en banque, c'est pas mal. Ouais,
voilà. Si t'es dans les petits papiers du Panama, c'est que t'as du blé.
Des fois, sur la
plage, Gilbert,
le problème aussi au Panama. Des fois, au Panama, tu peux tomber sur des gens inattendus.
Le problème, c'est que nous, on n'a pas grand chose à cacher.
C'est vrai.
Et limite, Kevin, il aimerait avoir des trucs à cacher.
Non, mais blague à part, vous pensez qu'il va être déséquilibré ce match-là ou pas tant que ça?
Ce que j'ai vu du Panama contre le Ghana où ça peut bien jouer au ballon un petit peu, ils sont quand même limités notamment dans la phase offensive, la dernière phase. Moi la Croatie, j'étais très déçu contre l'Angleterre. Modric, j'ai trouvé en énorme
un peu
difficulté.
Vieillissant quand même, la Croatie, c'est pour ça que ça peut éventuellement.
Et je pense que ça peut être un match sympa à suivre parce qu'il va être ouvert mais normalement la Croatie doit gagner, ouais.
Bon, à suivre. Valentin nous appelle dès qu'il se passe un truc. Arthur Perrault avec nous, il suit l'équipe de France évidemment, avec toute notre équipe de reporters qui est actuellement à Boston. Arthur, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Alors évidemment, l'actualité de l'équipe de France aujourd'hui marquée par le deuil que connaît Didier Deschamps, qui a perdu sa mère et qui donc rentre en France et qui ne sera pas sur le banc du match vendredi face à la Norvège, Arthur.
Oui, c'est d'ailleurs les premières lignes du communiqué de presse de la Fédération Française de Football qui est tombé à 15h30 heure américaine cet après-midi. Ce communiqué qui précise que voilà, le sélectionneur national a eu la douleur ce matin d'apprendre le décès de sa maman. Il est donc sur le chemin du retour pour la France pour assister à ses obsèques, en accord avec Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, présent au camp de base de l'équipe de France. Et bien Didier Deschamps a confié la responsabilité à son fidèle adjoint Guy Stéphane de diriger le groupe d'ici son retour. Voilà, et c'est, d'ailleurs, c'est lui qui était présent tout à l'heure à la séance d'entraînement organisée du côté de la Bentley University, où il y avait de nouveau un match amical organisé avec les jeunes de New England Revolution, le club local. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions. Une minute de silence, d'ailleurs, avant le début de ce match amical. Ce qu'on peut vous dire, c'est que Didier Deschamps a pris brièvement la parole devant son groupe ce matin, joueurs et staff compris, avant le déjeuner. Un moment particulièrement émouvant, très touché les joueurs et les membres de l'encadrement qui avaient été avertis justement de la nouvelle dans la matinée. Voilà, avec beaucoup d'émotions, plusieurs regards étaient humides au moment d'écouter leur sélectionneur. Et voilà, malgré la douleur, Didier Deschamps qui a tenu à adresser un message fort à ses joueurs. Le sélectionneur leur a demandé de poursuivre sur la dynamique positive actuelle et de continuer à tout donner sur le terrain. Et ce qu'on peut vous dire aussi, et c'est très important, et bien après cette annonce, les internationaux ont longuement échangé entre eux, souvent en petits groupes et toujours avec beaucoup de pudeur. Voilà, les Bleus qui veulent désormais s'imposer vendredi, non seulement pour conserver leur dynamique de victoire, mais aussi et surtout pour leur entraîneur. Donc voilà, il y a un vrai esprit de groupe qui était déjà en place du côté de l'équipe de France et qui est renforcé, malheureusement, j'ai envie de dire, par cette triste nouvelle du jour, Gilbert.
Bon, rien d'autre, rien de spécial sinon sur le terrain, pas de blessés, tout va bien.
Non, la seule petite nouvelle, c'est que Aurélien Tchouaméni avait été victime d'une petite gêne musculaire et qu'il a participé justement au match amical de cet après-midi. Rien à signaler pour lui, ça semble aller. Et juste pour vous dire que voilà, il y a deux joueurs qui ont fait forte impression pendant cette opposition. Ce sont les Parisiens Lucas Hernandez et Désiré Doué qui s'est montré lui plutôt en jambes donc. Mais sinon rien de bien particulier, Gilbert.
Bon, très bien. Évidemment, l'Afterfoot présente ses condoléances au sélectionneur.
Absolument.
Et on espère qu'il reviendra vite, bien sûr.
Qu'il revienne surtout quand il le sent, parce que effectivement très douloureux pour lui. Il avait, quand on est aussi longtemps à la tête d'une équipe, forcément les moments douloureux et les bons moments dans la vie t'accompagnent. Il avait également, au moment de la Ligue des Nations en 2022, perdu son papa.
Au mois de novembre,
il a dû quitter le groupe. Tout à fait. Également Deschamps.
Alors avant de notre débat, les gars, sur la gestion du match face à la Norvège, j'ai quand même quelques infos à partager avec vous. Déjà vous dire que selon les prévisions météo, on pourrait ravoir le coup des orages vendredi à Boston. Il y a en gros une chance sur cinq pour qu'à nouveau il y ait orage.
Une sur cinq, ça fait 20%.
Ouais. C'est le National Weather Service, météo américain.
20%, c'est donc un 80-20. C'est au poker, j'ai les as. Voilà, a priori, on s'en sort.
Alors là, c'est l'inverse. Là, c'était vraiment 80% de chance qu'il y ait l'orage et il y a eu l'orage.
Voilà. Je voulais donc également, comme on l'a dit tout à l'heure, vous parler un peu des audiences avant qu'on parle de la Norvège. Parce que finalement, c'est assez surprenant. M6 est ravi parce que les audiences pour un match très tard et en pleine nuit sont selon M6 très bonnes. Moi, je connais pas grand chose aux audiences, donc je me rends pas trop compte de ce que ça représente à la télé. Mais donc la première mi-temps a réuni près de 9 millions de téléspectateurs pour un match à 23h. Quand ça a repris, donc en pleine nuit, il était 2h du matin, il y avait encore presque 5 millions de personnes devant la télé. Donc on considère chez M6 que c'est excellent. Précision, il y a des potentiels 16e et 8e de finale également normalement à 23h si la France termine première de sa poule. Donc il y aura d'autres matchs comme ça la nuit. Bon, il y aura sans doute pas le coup des orages à chaque fois. Mais voilà, il commence à y avoir un effet Coupe du Monde qui se ressent sur les audiences en France. D'ailleurs, les audiences de l'Afterfoot, je vous le dis, les nuits de l'After sont aussi très bonnes. Donc ça y est, c'est parti quoi. La Coupe du Monde est lancée. Bon, vous allez me dire, ça fait presque 15 jours maintenant, mais des fois, il y en a qui prennent ça en cours de route, hein, ou qui attendent que l'équipe de France monte en puissance pour s'y intéresser.
Écoute, ouais, très honnêtement, en dehors de ce qu'on a dit sur la longueur de la compétition, à part en rapport aux 48 équipes, on a des beaux stades. Contrairement à ce qui se disait sur le prix des places, les ambiances et tout, on a du début à la fin. Ça commence par un protocole nouveau que moi j'aime beaucoup.
Excellent.
Une réalisation télé, pareil, qui a été critiquée, que moi perso je trouve bonne.
Il y a une qualité d'image dingue.
Exactement.
On a des caméras.
Grosse surprise sur les affluences et les supporters. On a vu ici à New York des communautés de Norvégiens énormes. On a vu des Brésiliens. On a vu des Marocains.
On voit qu'il y a du pouvoir d'achat en Norvège.
Tous les pays. Regarde le stade de Panama.
Il y a plus de Norvégiens que de Français.
Un des pays les plus riches du monde, la Norvège.
Le stade est rouge. Le Panama Croatie, il y a des gens de partout. Donc les supporters se sont déplacés. Ils se sont démerdés parce qu'effectivement, on le sait, c'est cher. Donc il faut s'organiser, mais il y a eu de l'organisation. Les gens sont venus. Donc tout ce qui a été dit sur la Coupe du Monde, sur le machin et tout. Alors évidemment, moi je continuerai de critiquer la version 48. Et quand on me dit non, c'est bien, ben je dis bah dans ces cas-là, allons à 64, allons à 120, que ce soit sans limite. S'il faut faire plaisir à tout le monde, bref, je ne changerai jamais sur ce point-là. Mais la Coupe du Monde est une réussite pour l'instant. Exactement comme avant le Qatar, on avait eu 1 milliard de polémiques, mais la Coupe du Monde au Qatar a été une réussite. Et cette Coupe du Monde aux États-Unis, je n'en doute pas, va l'être également. Mais elle s'étire sur la longueur et on a envie, effectivement, on est impatient de rentrer dans le vif du sujet.
Ouais. Moi, j'étais
peut-être
encore...
aussi parce qu'on n'a pas encore vu Donald Trump. Je ne sais pas.
Je sais très bien de ne pas le voir d'ailleurs. Ouais.
Attends. D'ailleurs, info.
Alors, tu vas le voir pour la finale.
Il va remettre le trophée. Exactement. Ouais. Ouais. Infantino a dit aujourd'hui qu'il remettrait avec Trump le trophée de la. C'est incroyable.
Et il paraît qu'Infantino aura à côté de lui la fameuse boîte à cirage.
Ah, peut-être.
Et puis il aura
Yuri Djurkaev derrière lui.
Ah, tu veux dire une grande boîte en bois ?
Une petite boîte quand même.
Et puis il aura Yuri Djurkaev derrière lui.
Mais moi, j'ai décidé de toute façon, à un moment, moi, je veux bien évidemment critiquer Trump, c'est très facile et je me mets avec tous ceux qui le critiquent. Mais, et pareil pour Infantino, encore plus Infantino, restons sur le foot. Et Infantino, Dieu sait qu'on a beaucoup tapé dessus. Mais à bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est très hypocrite puisque tout le monde lui mange dans la main. Comme tout le monde lui mange dans la main, que ce soit tous les présidents de fédé. Le seul que j'ai entendu critiquer un peu la Coupe du Monde sur les pauses fraîcheurs, les machins et tout, c'est Bielsa. Tous les autres sélectionneurs ne disent rien. Les présidents de fédé ne disent rien.
Infantino.
J'ai dit que je me concentrais sur Infantino.
Parce qu'Infantino, c'est une chose, mais Trump, c'est autre chose.
J'ai dit que je me concentrais sur Infantino, parce que on va rester sur le foot.
Quand tu parles aux New Yorkais, même ceux qui ont voté pour Trump, ils sont pas dans le kiff total.
Trump, tu vas jamais me trouver pour le protéger. Je veux m'axer sur Infantino et même moi qui l'ai énormément critiqué, je le continuerai à le faire. L'usurpateur, celui qui a mis le couteau dans le dos de Platini, tout ce que vous voulez. Mais je veux plus tant lui taper dessus parce que de toute façon maintenant il mange. Si je veux critiquer à lui, je vais prendre tous les Français qui mangent derrière lui. Tu l'as dit, George. KF, même mon président de San Remo, Carambeu, ils vont tous manger à la gamelle, tous les présidents de Fédé, partout, les sélectionneurs, ils y vont tous. Donc écoute, ils votent tous pour lui, sur tous les continents, ils votent tous pour lui. Tous mangé, les mecs de la CONCACAF qui ont eu leur billet pour venir tous les pays, là, au Curaçao, maintenant, puisque tout le monde joue à la.
Curaçao.
Tout le monde l'a fait la Coupe du Monde, donc ils ont tous croqué, ils ont tous mangé à sa table et à la gamelle. Donc autant arrêter de le critiquer, parce que sinon, il faut taper sur tout le monde. Donc bon, écoute, ils l'ont voulu, ils sont tous contents. Donc
chacune des 211 fédérations affiliées à la FIFA reçoit au moins 300 000 euros par an de la FIFA.
Voilà, donc c'est la régalade pour tout le monde. Donc
ils reversent tout l'argent.
Ça sert à rien de taper que sur lui. Quoi.
Sauf que le suivi de cet argent-là après sur ce qui devient concrètement dans les pays concernés,
En tout cas, pour revenir à.
C'est vrai que mon grand plaisir, c'est de regarder à chaque fois qui sont les joueurs qui sont là, parce que tu sais lesquels sont payés par la FIFA en fait pour être là. Et j'ai quand même l'impression que le pays le plus représenté, c'est le Brésil. Je crois que les Brésiliens, eux, ils viennent, ils prennent.
Oui, mais attention, parce que
ils sont tous là, les Brésiliens.
Tu vois, hier.
Les joueurs, tu veux dire.
Oui, les anciens joueurs.
Ça fout. Et là, ça rouspète pas sur Infantino, oui, ça dit rien. Non. En même temps, tous là, pour les dignités de Joao Blanche.
Pour une fois, il y avait Cafu, il dormait un peu pendant le match.
Il mangeait dans la gamelle.
Pour du monde,
on a vu beaucoup d'Anglais d'ailleurs.
Non, John Terry aujourd'hui.
Ah, John Terry.
Dans la tribune. Après, avec certaines sommes, peut-être qu'on y va sur la photo dans la tribune.
Quand tu es derrière la tribune officielle, c'est que tu fais partie des ambassadeurs FIFA. Donc, ceux qui sont payés pour être là.
Combien tu vas en tribune officielle avec Infantino?
Ah non, moi j'ai déjà refusé, hein. Je veux pas.
pour revenir à
Kevin, un bon resto à New York, il y va.
Une paire de basket, il y va, lui. Il a acheté 4 paires depuis qu'il est là.
C'est tout? Ça, c'est pas faux. Mais.
Seulement 4?
Ouais, 4. Mais pour revenir à l'expérience stade, hier, quand t'es au stade, vous parliez des Brésiliens, il y avait beaucoup de Brésiliens. Il y a beaucoup de Brésiliens partout.
À New York, il y a une communauté brésilienne incroyable.
Ils kiffent le foot, il y avait des journalistes, j'étais sur l'Observer site, mais il y avait donc beaucoup d'observateurs, des journalistes, des supporters du Brésil. Et quand même, quand t'es dans le stade, alors, tu parlais des stades. Pour moi, c'est les plus beaux stades du monde. Mais je suis peut-être pas objectif, parce que c'est les stades de NFL, mais de toute façon, c'est la plus grosse du monde.
Quand on va retrouver nos stades de Ligue 1, on va prendre une tarte.
Franchement, les stades sont
incroyable. À l'intérieur, le nombre de
les écrans géants, Kevin.
C'est ouais. Les écrans géants, mais même les food trucks à l'intérieur. Tu veux manger, tu peux manger de tout. Il y a les pop-corn, les glaces, les bières, les bonbons. Enfin bref, c'est
au Paris FC, t'as la frite à 5 euros.
Après, faut te saigner pour l'acheter. Mais
oui, d'accord. Mais je te parle de l'expérience stade. Ce que tu veux, si t'as les moyens, tu peux y aller.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est l'architecture. C'est pas le food truck.
Non, mais c'est pas symétrique comme nous on a en Europe. Aucun stade est symétrique.
C'est l'architecture, mais c'est aussi l'expérience stade. C'est-à-dire que c'est vraiment
l'expérience stade. Le parking à 200 balles. Ça, le hot dog à 25. Ça, c'est l'expérience stade de Kevin.
J'ai été appuyé, j'ai pas pris le parking. Mais tu peux aussi quand même.
Après, même sur le parking, il y a des gens qui me disent mais attends, arrêtez avec ça. Moi, j'ai payé que 20 balles. Il faut juste connaître, savoir et tout, bricoler.
Peut-être, oui.
Par contre, le business des parkings aux États-Unis, c'est comme ça que McCourt est devenu milliardaire d'ailleurs.
Tout à fait.
Avec le business des parkings à Los Angeles.
Autour du stade des Dodgers. Ouais. Mais après, quand t'es à l'intérieur du stade, la Coupe du Monde, c'est quand même particulier. C'est-à-dire que, alors oui, on va me dire, OK, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas des chants partout. Mais il y avait toute une partie du stade où il y avait tous les Norvégiens avec leurs trucs, là, où ils font le rameur, c'est extraordinaire. T'as des taches de supporters avec du vert à gauche, du vert à rouge, du rouge à droite. Mais tout le monde est mélangé. T'as des gens qui ont le maillot du Mexique, t'as des gens qui ont le maillot du Canada. Tu prends.
C'est l'ambiance Coupe du Monde.
C'est exceptionnel.
Hier à Philadelphie,
c'est extraordinaire. Très belle ambiance.
Tu as raison, Kevin, de souligner.
C'est qu'un peu à la rugby, il n'y a pas de. C'est pas comme nous dans nos stades. Ah, t'as le maillot des Saint-Etienne, tu peux pas aller dans telle tribune, tu peux pas aller dans tel stade. Après, t'es parisien, tu peux pas aller là-bas.
Tu vois, rappelons qu'on a eu des Coupes du Monde ou des Euros en France. Où il y a eu des drames.
Où il y a eu de la baston.
Pour l'instant, c'est pas le
Benetta,
cas.
Pas qu'en France d'ailleurs.
Parce que malheureusement, dans notre tradition du supporterisme, il y a aussi le hooliganisme. Et on a eu notamment à Marseille le fameux Angleterre Russie 2016.
En 98, le gendarme Nivelle.
Est-ce qu'on a le droit de penser que c'est moi par exemple.
Pour l'instant, ici, tout va bien.
C'est plus ce que j'aime en fait. Moi, je veux, comme au rugby, pouvoir aller voir mon club, aller voir mon pays, mettre mon maillot, peu importe où je suis, je veux aller dans le stade. En fait, et on va pas me dire, ah ouais, mais tu comprends, nous, chez nous, le supporterisme, oh, si t'as le maillot de Benfica dans le supporter de Porto, tu vas te faire taper, ou si t'es Lyon à Marseille, c'est pareil. Non, mais moi, je veux plus de ça, en fait.
C'est une culture différente. Voilà, regarde, moi, en finale NBA, par exemple, t'avais plein de supporters de New York Knicks qui étaient au stade de San Antonio, et tout, c'est très bien.
Il y a un peu plus tendu, hein.
Il y a eu deux, trois problèmes.
Un peu plus tendu. C'est inévitable, quand même, avec l'alcool et tout ça. Mais hier, à Philadelphie, juste pour finir, Kevin, t'avais beaucoup.
Quand t'étais au match,
De l'équipe de France, il y avait beaucoup d'Américains avec le maillot de l'équipe de France.
Non, mais ça, il y en a aussi.
Alors, il y a un phénomène que vous allez observer.
Pourquoi ça?
Je sais pas.
Attendez, il y a un autre phénomène que vous allez observer.
On n'est pas obligé d'aimer les footix non plus.
Chaque grande nation, il y a à chaque fois beaucoup d'Asiatiques qui s'identifient et qui sont là en groupe.
Et pourquoi? Mais
je sais pas, j'aimerais bien que vous repartiez en
aussi. Et moi, j'ai vu des Américains avec le maillot du Sénégal.
En fait, ils viennent, ils s'identifient, je pense, Jimmy a raison, Jimmy Brown qui est là au Star, et ils viennent en groupe avec hier, il y en avait plein avec le maillot de l'équipe de France, l'autre jour, maillot du Brésil, maillot de la Belgique.
C'est assez étonnant. Ce que tu me décris, c'est un peu des vagues.
Rupture des stocks sur le maillot des Bleus.
Oui, c'est à l'échelle mondiale.
Rupture des stocks sur le maillot des Bleus.
Tu vois, en Angleterre, où tu as une forte culture NFL, donc football américain, parce que ils sont pas basket, ils sont très football américain. Dans les années 90, il y avait beaucoup de foot américain à la télé. Donc ils ont leur club, ou leur franchise. Mais si t'as un match à Londres, par exemple, qui n'implique pas leur franchise, ils y vont quand même au match pour voir la NFL à Londres, mais avec le maillot de leur franchise. Donc ils vont voir Patriots contre Jets, par exemple, avec un maillot des Giants. Et tout le monde tu vois plein de maillots différents à Wembley, à Twickenham, au Tottenham Stadium. Mais c'est comme ça. Et c'est un peu la même chose ici avec les Américains qui aiment le soccer, mais qui n'ont pas vraiment une équipe.
Revenons à l'équipe de France et au terrain. Dans un instant, on parle du match de vendredi face à la Norvège. On se retrouve tout de suite dans l'after.